Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Loridon, Bertille Bourdon et Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Florent Bujon. Premier temps d'une semaine consacrée à l'Algérie, alors qu'on fête le premier anniversaire du Irak, cette contestation populaire qui a explosé l'année dernière lorsque l'ancien président Abdelaziz Bouteflika annonçait qu'il se représentait pour un cinquième mandat. Nous parlerons d'économie, nous parlerons de diplomatie, du droit des femmes, mais pour commencer, regardons comment l'Algérie a changé en 12 mois. Un an après la révolte populaire, le régime post-Bouteflika, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous, on veut une Algérie plus libre, une démocratie, une réelle démocratie, une liberté d'expression qu'on n'a pas. On est très conscient aujourd'hui, hein, conscient qu'on nous berne depuis 20 ans, pensant que notre Algérie est très belle, qu'elle a beaucoup de potentiel et qu'il faut qu'on se batte pour ces potentiels-là.
Tout d'abord, et selon un communiqué de la présidence de la République, la dite démission du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, interviendra avant le dimanche 18 avril 2019.
Sa décision de quitter le pouvoir, c'était une évidence. Bouteflika est mort depuis longtemps, mais la mafia qui l'entoure doit partir aussi. 1, 2, 3,
Conformément au Irak populaire et à la réalisation de ses exigences légitimes, je renouvelle mon engagement à tendre la main à tout le monde afin de réaliser les demandes restantes dans le cadre du consensus national et du droit de la République.
Nous fêtons cette semaine le premier anniversaire du Irak. Ce mouvement de contestation né le 22 février 2019 à l'annonce de la candidature pour un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, président de l'Algérie depuis 20 ans, malade et invisible, fantôme d'un pouvoir tenu par les décideurs, comme on les appelle, ces fameux clans au pouvoir en Algérie. Derrière le rejet du cinquième mandat de Bouteflika, c'est tout un système politique que la population algérienne veut voir aboli. Alors depuis, bien des choses ont changé. Bouteflika est parti, le chef d'état-major Kaïd Salah, qui incarnait la continuité du pouvoir et la mainmise de l'armée sur celui-ci, est mort. Des élections ont été organisées, desquelles sont sortis un nouveau président, Abdelmadjid Tebboune. Mais le système que dénonçaient les manifestants est-il tombé? Ou s'agit-il seulement d'une pure opération de ripollinage derrière la façade d'un gouvernement civil? Quelle est encore aujourd'hui la place de l'armée? Et que va devenir ce mouvement populaire qui se poursuit malgré l'arrivée justement de ce nouveau chef d'État? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Jean-Pierre Filiou. Bonjour Jean-Pierre Filiou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, arabisant, vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris et vous signez un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines, Algérie, la nouvelle indépendance, c'était au seuil. Avec nous également Massensen Cherbi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous doctorant en droit à l'université Paris de Panthéon, Assas, auteur d'un ouvrage sur l'Algérie qui était paru chez The Book. Algérie, justement. Alors d'abord, peut-être, je voudrais vous poser une question un peu générale. On va avoir du temps pour évidemment détailler les choses. Mais je disais dans mon introduction, Bouteflika est parti, Kaïd Salah, qui était le chef d'état-major, est mort. On a un nouveau président qui est élu, Jean-Pierre Filiou. L'Algérie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'Algérie d'il y a un an. Ou est-ce qu'il faut nuancer?
Il faut évidemment nuancer, mais poser deux constats qui, je crois, sont incontestables. Le premier, c'est que rien ne sera plus jamais pareil en Algérie du fait de cette année de mobilisation populaire, pacifique, continue, déterminée. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, les libertés publiques en Algérie se portent plus mal qu'il y a un an, que les tentatives d'étouffement, de répression, voire de provocation de la part du régime, indépendamment des changements qui se sont passés au sommet du système, eh bien elles continuent. On a encore eu ce week-end interdiction faite à la tenue tout simplement d'une rencontre avec la presse de la part d'animateurs de la contestation. On a des dizaines de détenus d'opinion et on a des restrictions générales aux libertés publiques qui, j'insiste, sont pire qu'il y a un an.
Sachant que certains détenus, justement, ont été libérés, d'autres non. Certains attendent leur procès, mais on y reviendra, on en reparlera. Massensen Cherbi, même question un peu générale. Est-ce que vous avez le sentiment que vraiment, aujourd'hui, cette Algérie n'a plus rien à voir avec celle du 22 février 2019?
Elle n'a plus rien à voir au niveau de la rue, au niveau de la mobilisation massive de la population dans toutes les régions du pays contre le régime. Néanmoins, au niveau des institutions du pays, absolument rien n'a changé. La constitution autoritaire qui trouve sa matrice dans la constitution du colonel Boumédienne de 1976 et qui organise une concentration des pouvoirs au profit du président de la République est toujours en place. Quant aux lois liberticides qui permettent toutes ces arrestations, loi sur la liberté, loi sur les associations, loi sur la liberté de manifestation, loi sur les partis politiques, qui sont toutes des lois liberticides, eh bien ces lois sont toujours en vigueur et absolument rien n'a changé de ce point de vue.
Mahsen Sencherbi, vous êtes un spécialiste de la constitution algérienne. Vous avez fait une thèse justement sur ce sujet-là. Il se trouve que le nouveau président Tebboune a un projet de réforme constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce projet? Qu'est-ce qu'il y a dedans et ce qu'on peut en attendre?
Le Hirak avait réclamé, revendiqué un changement radical de système. Or, un changement radical de système, ça n'est pas le toilettage d'une constitution, c'est le changement de constitution. C'est le changement de la constitution de l'ancien régime. Et dès lors, cette révision qui est proposée par le nouveau président Abdelmadjid Tebboune n'est autre qu'en fait une astuce qui a été suivie par ses prédécesseurs, notamment pensez à la nouvelle constitution de 1996 ou à la révision constitutionnelle d'Abdelaziz Bouteflika en 2016, qui n'ont en fait rien changé quant à la concentration des pouvoirs au profit du président de la République, le reste étant folklorique. Certes, on a reconnu le multipartisme, les associations à caractère politique en 1989, le multipartisme en 1996, progressivement la mazérité, ce qui symboliquement est fort. Mais quant à l'essentiel, c'est-à-dire les pouvoirs du président de la République, rien n'était touché. Et en toute vraisemblance, cette révision de la Constitution qui est proposée à l'initiative du président de la République, car en Algérie, seul le président de la République a cette initiative-là. Le peuple ne l'a pas, le Parlement ne l'a pas non plus. Eh bien, elle va toucher à certains points. Par exemple, il s'agit de donner au Parlement un pouvoir de contrôle plus fort sur le gouvernement. Très bien.
Mais
or, le gouvernement en Algérie n'a aucun pouvoir. Et tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président de la République.
Jean-Pierre Filliou, vous faites le même constat parce qu'effectivement, quand on voit l'annonce de ce projet de réforme constitutionnelle, c'est très ambitieux. Renforcement des droits et des libertés des citoyens, moralisation de la vie politique et lutte contre la corruption, consolidation de la séparation des pouvoirs, renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement, indépendance judiciaire. On se dit que c'est formidable. L'Algérie de demain va régler tous ces problèmes.
Effectivement, les éléments de langage sont impeccables, mais ce ne sont que des éléments de langage qui ont été imposés à un régime vraiment arc-bouté sur le statu quo par la continuité, la solidité, l'assurance, la détermination de la mobilisation populaire. Aujourd'hui, ce même président qui a été si mal élu, officiellement 40% de participation, sans doute de l'ordre de 10%, parle du Hirak béni, c'est-à-dire qu'il essaie de récupérer à son profit l'immense prestige de la contestation populaire. Mais en même temps, sa main droite libère et sa main gauche arrête, et on peut trouver cette schizophrénie à tous les niveaux. C'est-à-dire que la guerre d'usure a simplement changé de forme du point de vue du pouvoir. Avant, on essayait exclusivement d'étouffer par la répression. Maintenant, on mixte les gestes, d'une part d'apaisement, de cooptation, d'autre part de répression. Mais il faut comprendre que les Algériennes et les Algériens sont parfaitement conscients de ce qui se passe. Ils ne sont absolument pas dupes de ces manœuvres. Vendredi dernier, c'était le 52e vendredi de manifestation dans des dizaines de villes du pays. Hier, à Kherata, c'était l'anniversaire de la première manifestation ouvertement, publiquement anti-Bouteflika, avec une marée humaine dans cette ville. Donc, la mobilisation continue. Vous savez, il y a ce verbe merveilleux qu'ont inventé les Algériens. Je vendredi, tu vendredi, il ou elle vendredi, zon, il ou elle vendredi, nous vendredisons, vous vendredites, et il dégage.
J'attendais
il
la
dégage.
Suite.
Voilà.
Il dégage. Vous êtes historien, Jean-Pierre Filliou. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce personnage, Tebboune? Qui est-il? Il a été ministre, il a même été Premier ministre. C'est quoi ces grands faits politiques notables et comment est-ce qu'ils éclairent justement ce que pourrait être son mandat? S'il le fait en entier, évidemment, mais c'est qui, Tebboune?
Alors, Tebboune, c'est le produit parfait du système, ou plutôt, pour être précis, de la façade civile du système. Il faut savoir que si les Algériens manifestent, c'est au nom d'un slogan qui est très clair, « État civil » et non militaire. Ils sont bien conscients que Tebboune n'est pas militaire, mais sont aussi conscients que Tebboune ne détient pas le pouvoir réel. D'ailleurs, c'est très frappant. Il y a toujours la question de qui détient le portefeuille de la défense. Et là, personne n'a osé l'attribuer, même l'attribuer au président de la République. Donc, dans la configuration Bouteflika, Bouteflika était formellement ministre de la Défense, de fait impotent, et c'était son vice-ministre, le chef d'état-major, qui exerçait le pouvoir de fait. Et là, on n'a pas tranché cette question, de même que...
Donc, il n'y a pas de ministre de la Défense aujourd'hui ?
Il n'y a pas de ministre de la Défense, et le chef d'état-major est officiellement par intérim. Ce qui veut dire que tout ça flotte. Mais en même temps, tout ça flotte sans aucune remise en cause, comme ça a été parfaitement rappelé. C'est-à-dire qu'on joue avec les mots, on joue avec les formes, et Tebboune essaie de donner le change. Mais quand Tebboune prétend dialoguer, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il se déplace auprès d'un opposant qui était malade, c'est un geste tout à fait respectable, où il reçoit des opposants qui ont à peu près le même âge que lui, hein. C'est un septuagénaire, donc on est quand même très en décalage avec une contestation qui est portée par la jeunesse algérienne, mais de toute façon, ce ne sont jamais que des rencontres individuelles, à aucun moment il n'y a de véritable dialogue, et on sait bien que ce dialogue, que peut-être un jour Tebboune, poussé par différentes contraintes, entre autres économiques, va être obligé d'ouvrir, ce dialogue impliquera d'abord l'abolition des dispositions liberticides qui ont été rappelées, hein, pour que la population puisse s'exprimer de manière sereine et protégée par la Constitution plutôt que d'être empêchée par la Constitution. Et puis il faudra non plus discuter avec des individus, mais avec la représentation que ce moment-là, et uniquement ce moment-là, la contestation se donnera.
Vous parliez d'économie, ce sera justement notre sujet demain de cette série consacrée à l'Algérie. Massène Senchaibi, cette question de l'armée, elle est évidemment centrale. Quelle est aujourd'hui la place de l'armée dans ce pouvoir et qu'a changé effectivement la mort de Gaïd Salah ? Dans tout cela, on imagine que Gaïd Salah n'était pas le seul à être une figure importante de ce monde des militaires algériens. Il y en a évidemment d'autres. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui en coulisses ? Il y a des luttes d'influence pour justement prendre la tête de ce monde-là. Enfin, qu'est-ce qui se passe ?
Alors déjà, signaler que l'armée déjurée dans la Constitution algérienne n'a pas de rôle politique, elle n'a pas de rôle de garant de la Constitution. En vertu de l'article 28 alinéa 2, sur lequel s'est fondée l'armée pour intervenir à partir de la fin du mois de mars dernier dans la vie politique du pays, l'armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. Et l'armée a interprété cette disposition qui ne lui donne aucun rôle de garant politique pour la relier avec l'article 7 alinéa 2 de la Constitution qui dispose que la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Et l'armée serait intervenue pour sauvegarder cette souveraineté nationale menacée par le président Abdelaziz Bouteflika qui avait prolongé son propre mandat en annulant les élections présidentielles qui devaient avoir lieu. Or, elle l'a fait manifestement au-delà du texte constitutionnel qui ne prévoit pas de rôle de garant pour l'armée. Néanmoins, comme je l'avais dit, cette constitution est extrêmement autoritaire. Elle donne les pleins pouvoirs au président de la République. Or, ces pouvoirs remontent à la Constitution de 1976, à une époque où le président de la République n'était autre que le chef de l'armée, le colonel Boumédienne, celui qui a mis en place le régime au lendemain de l'indépendance en 1962, dans une guerre qui a opposé l'état-major général de l'armée au wilaya de l'intérieur. Et c'est depuis cette époque qu'en fait l'armée joue un rôle prépondérant, déjà durant la guerre d'Algérie, mais à partir de ce moment-là, avec l'indépendance, dans la vie politique du pays.
Et son rôle aujourd'hui, lequel est-il ?
Alors très clairement, à partir des mois de mars-avril dernier, on a vu l'armée comme jamais être au devant de la scène politique, c'est-à-dire que le chef d'état-major est apparu après la démission d'Abdelaziz Bouteflika très clairement comme le chef d'état de facto du pays, tandis que le chef d'état déjuré, qui était le chef d'état par intérim, qui était Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, le Sénat algérien, était totalement invisible face au chef d'état-major. Les Algériens attendaient beaucoup plus le discours hebdomadaire du chef d'état-major que celui du président par intérim, qui était totalement inaudible. Et lorsqu'il est décédé à la fin du mois de décembre dernier, chose jamais vue dans l'Algérie indépendante, on lui a fait des funérailles d'un chef d'État.
Ouais. Jean-Pierre Filliou, qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'il est en train de se jouer aujourd'hui au sein dans les rangs de l'armée ? Qui aujourd'hui est peut-être en passe justement de devenir la figure autoritaire de l'armée algérienne ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors d'abord, quand on ne sait pas, il faut mieux l'avouer. Et Personne n'a la moindre idée de ce qui se passe à l'intérieur d'un premier cercle dont l'opacité est protégée par des décennies de manœuvres, voire de complots menés en commun, et par toute une série de pactes de non-agression qui lient les uns et les autres. Et, permettez-moi cette réflexion qui pourrait sembler ironique, c'est très bien comme ça. Qu'ils s'arrangent entre eux, ça ne doit pas être le problème des citoyennes et des citoyens en Algérie qui demandent une chose très simple, que l'armée fasse son travail. Ouais. Hein, l'armée a le premier budget militaire d'Afrique, elle est extrêmement bien dotée, notamment auprès de son principal fournisseur qui est la Russie. Elle a un certain nombre de problèmes à ses frontières qui pourraient l'occuper complètement à plein temps, en plus d'un terrorisme qui n'a pas disparu du territoire national. D'ailleurs, régulièrement, les manifestants rendaient hommage par des minutes de silence aux martyrs de l'armée qui étaient tombés face au terrorisme. Donc, que l'armée fasse... excusez-moi.
Je vous en prie.
Quand on dit de l'armée, en fait, les généraux. Hein, oui. L'armée, ce sont des centaines de milliers de militaires, dont l'écrasante majorité sont des patriotes qui sont dévoués à leur pays. On parle du petit cercle de ces généraux, de ce qu'on appelait les décideurs. Vous avez vous-même employé cette expression.
C'est l'expression qu'on utilise en Algérie. Ouais,
voilà. Ouais. Et expression qui, très symboliquement, remonte à Mohamed Boudiaf, qui, après le coup d'État de l'armée contre le président Ben Jedid en janvier 1992, est rappelé de son exil au Maroc. Boudiaf était un des pères fondateurs du FLN, et c'est lui qui, pour la première fois, dit « les décideurs m'ont appelé ». Et, de fait, quelques mois plus tard, il va être assassiné par son garde du corps. Donc, simplement, on voit qu'aujourd'hui, ils sont face à une situation totalement nouvelle. D'abord que la contestation ne cesse pas. Or, eux ne savent pas gérer un mouvement populaire, pacifique et non violent. Hein. Ils ne savent gérer que des rapports de force armés. Donc, le Khilak est arrivé à désarmer un régime surarmé. Mais l'autre élément, et c'est pourquoi je parle régulièrement de régime à bout de souffle, de régime en fin de vie au sens propre, c'est-à-dire qu'on a la génération des généraux qui prétendent avoir d'une façon ou d'une autre contribué à la lutte anti-française, même si pour beaucoup d'entre eux ils ont écrasé la résistance anti-française à l'été 1962, eh bien Gaït Salah était le dernier de cette génération, et aujourd'hui le nouveau chef d'état-major, accessoirement par intérim, eh bien il arrive après la guerre de libération, il ne peut prétendre à aucun état de service anticolonial, donc on est de toute façon dans une autre période.
On reviendra sur ce moment originel de 1962, ce premier massacre est évidemment important, que vous évoquez beaucoup dans votre livre. Mahsen Sancherbi, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voudrais vous poser une question en quelques mots, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse faire tourner la parole, Jean-Pierre Filiot. Est-ce qu'on a idée, je comprends que finalement, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'armée. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des idées des liens entre Tebboune et les militaires? Est-ce que tout du moins, on sait que Tebboune est soutenu par les militaires? La réponse est évidemment oui, sinon il ne serait pas là.
Ah ben, Tebboune évidemment a été désigné comme futur président avant même le début de la campagne électorale par le défunt chef d'état-major Gaït Salah. Donc c'est effectivement une situation inédite où celui qui l'avait désigné n'est plus ce monde. Donc ça lui donne sans doute une petite marge de manœuvre, mais certainement ça n'en fait pas une créature autonome de l'état-major.
Alors Mahsen Sancherbi, ça nous permet justement de revenir à la fois d'avant, c'est-à-dire la fois d'avant, le moment où les décideurs décident de ce cinquième mandat, parce que personne n'ose penser, vous avez dit tout à l'heure, lorsque Bouteflika a décidé de prolonger pour un cinquième mandat, personne ne pense qu'il a décidé lui-même. Il a eu cet AVC très important en 2013. Depuis, il était en fauteuil roulant, était incapable de faire campagne, à peine capable de faire un discours, voire même pas du tout capable. On n'imagine pas qu'il a décidé tout seul de prolonger pour un cinquième mandat. Donc on imagine qu'il y avait des décideurs précisément qui l'ont fait. Est-ce qu'on a un peu une idée de qui il y avait derrière tout ça? Il y a Gaït Salah, il y a son frère dont on dit qu'il avait un pouvoir considérable, frère et conseiller, on va en reparler. C'est qui a décidé de ce cinquième mandat?
Alors, qui a décidé, évidemment, ça, je ne vous répondrai pas car je n'ai pas la réponse.
Il y a quelques noms dont on sait qu'ils ont clairement...
Mais
ils étaient présents.
On sait très bien que le président Abdelaziz Bouteflika a été, tout comme Mohamed Boudiaf en 1992, appelé par les décideurs. Mais la différence avec Mohamed Boudiaf, qui est mort quelques mois plus tard, assassiné, 6 mois plus tard, c'est qu'Abdelaziz Bouteflika est resté en place près de 20 ans. Or, en 20 ans, il a eu le temps de voir ceux qui l'avaient mis au pouvoir décéder, partir à la retraite, les uns après les autres. Et notamment, en 2015, le général Toufik, qui n'est pas mort, mais qui a quitté ses fonctions, lui, qui est appelé le maître de l'Algérie.
Quitté les fonctions, mis à la retraite.
Et qui dirigeait les services secrets algériens.
Mais il n'a pas quitté ses fonctions, il a été mis à la retraite, on est d'accord. Je veux dire, il a été poussé dehors.
Il y a eu une guerre, en fait. À la veille du cinquième mandat, l'Algérie était marquée en fait par une guerre de clans entre le clan de Saïd Bouteflika, le frère du président, le frère cadet du président et éminence grise du clan présidentiel, et d'un côté l'état-major qui semblait ne plus être en accord avec la corruption qui régnait dans ce clan-là. Et ce à quoi on a assisté, état-major qui a été mise en place par le président Bouteflika, hein, c'est lui-même qui a nommé le général Ahmed Gaïd Salah. Et en fait, on a assisté à une guerre de clans entre deux clans au sein du régime, et un clan en a éliminé un autre, mais c'est toujours le même régime.
Alors justement, parlons un peu de clans. On a appris il y a quelques jours la condamnation de Saïd Bouteflika pour corruption. Alors, c'est pas encore complètement fini, il y aura des appels, etc. Mais enfin, on a appris ça. Comment interpréter ça, Jean-Pierre Filliou? Est-ce que c'est le signe que, définitivement, le camp Bouteflika, précisément, est disqualifié, écarté du pouvoir?
Oui, mais de toute façon, il n'avait jamais exercé, même s'il s'en mettait plein les poches, qu'un pouvoir de façade. Saïd Bouteflika, monsieur frère, on disait, ah oui, il prend tant de pourcents, mais en comparaison des pourcentages que les généraux ponctionnent directement sur les ressources, entre autres en hydrocarbures, ça n'était pas comparable. Donc, moi, ça faisait déjà des années que j'étais un peu gêné par tous ces opposants qui se concentraient sur le système monarchique de Bouteflika, de rôle de monarque en chaise roulante, n'était sans doute même pas conscient, je pousse pas trop loin le bouchon, qu'il était en train de se présenter pour un cinquième mandat. Hein, on l'avait littéralement décidé pour lui. D'ailleurs, il était hospitalisé en Suisse le jour où la candidature a été présentée en son nom. Donc, je crois qu'il y avait tout un rideau de fumée qui avait été permis par les cours exceptionnellement hauts du pétrole, hein, plus de $100 le baril pendant de longues années, et qui permettait en fait de nourrir cette illusion d'une classe affaiblie. On en parlait même des oligarques en Algérie, qui du coup permettaient au pouvoir militaire d'avoir une nouvelle couverture. Or, on voit qu'en quelques semaines, ils ont été liquidés. Hein, les Algériens et les Algériennes ne s'y sont pas trompés. Ils ont dit non à l'alternance clanique. Nous ne voulons pas plus cette justice d'exception que toute forme d'arbitraire. Et ce que nous voulons, c'est la justice. Mais on voit qu'il y a eu une espèce de dynamique qui a entraîné les décideurs, au premier rang desquels le défunt chef d'état-major, dans une vendetta contre les hommes d'affaires, ce qui a largement contribué, alors je sais que ce sera évoqué dans une autre de vos émissions, mais au marasme économique actuel. C'est-à-dire qu'on a une contestation qui a fait preuve d'énormément de responsabilité, de discipline collective, de civisme, pour ne justement pas perturber la vie d'Algérie, au contraire, lui donner une forme de vivre ensemble apaisée, donc favorable, entre autres à l'économie. Et puis on a un régime qui était tellement absorbé par ses règlements de compte qu'il est aujourd'hui la principale source du marasme économique qui pourrait peut-être le pousser à faire enfin des gestes substantiels, alors qu'aujourd'hui, il n'a fait que donner le change.
Massassène Cherbi, vous vouliez réagir?
Alors avant février 2019, se posait en sciences politiques une question en Algérie qui était celle du poids des hommes d'affaires, justement. Issa Dorbarab, par exemple, l'homme le plus riche d'Algérie, qui était lui proche de l'opposition, et Ali Haddad, lui qui était proche de la présidence de la République, et on présentait ces hommes d'affaires comme un nouvel élément du jeu politique algérien à côté de l'armée armée de la présidence de la République. Et en fait, c'est ce que vient de dire monsieur, hein, c'est qu'on s'est rendu compte immédiatement, après février 2019, que ils ont pratiquement tous été mis en prison. Hein. Aussi bien ceux qui étaient pro que ceux qui étaient anti-Bouteflika. Et qu'en fait, le régime fonctionne avec quoi ? Il fonctionne avec la rente. Et que ces milliardaires algériens, eux-mêmes, tiennent leur richesse de la rente, initialement. L'Algérie ne s'étant toujours pas départie des hydrocarbures. Encore en 2019, 95% des exportations algériennes sont des exportations d'hydrocarbures. Et même si l'Algérie a, entre 1999 et 2016, engrangé près de 600 milliards de dollars, l'économie ne s'est toujours pas diversifiée et elle dépend toujours des hydrocarbures contrôlés par l'État. Et dès lors, les hommes d'affaires algériens dépendent de l'État.
On y reviendra demain. On en parlera évidemment d'économie. Jean-Pierre Filliou, vous avez parlé tout à l'heure de justice. Il faut qu'on s'intéresse effectivement un petit peu à cette question de la détention des personnes qui ont certaines personnes qui ont participé au Irak. Il y a eu récemment la chef du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoun, qui a été libérée. Il y a des dizaines de personnes, de manifestants, qui ont été libérés ces derniers jours, sachant qu'il en reste évidemment. Moi, j'aimerais comprendre quelle est la logique qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on libère ceux qu'on a libérés? Pourquoi est-ce qu'on laisse en prison ceux qui sont encore en prison? Et finalement, pourquoi Tebboune ne joue pas une carte assez simple, qui est celle de libérer tout le monde pour essayer de gagner la confiance, précisément, de ces manifestants qui composent ce Irak aujourd'hui?
Parce que, justement, il n'en a pas les mains libres. Et dans la grâce très importante qu'il vient d'accorder, il n'a pas gracié de détenus d'opinion. Il faut savoir que, quand ceux-ci sont libérés, ils sont toujours passibles de peines avec sursis qui sont très lourdes, qui font qu'en fait, ils ne sont libres qu'à moitié. C'est-à-dire qu'à la moindre activité que le régime jugerait répréhensible, il a une interprétation très extensive de cela, il pourrait non seulement retourner en prison, mais du coup purger l'intégralité de la peine à laquelle ils ont été condamnés de manière aussi arbitraire. Ce qui nous renvoie, là encore, au Irak. État civil et non militaire, donc État de droit, donc l'État de droit. Hein, il est évident que les libérations récentes, qui ne sont que partielles, ont été aussi arbitraires que les détentions qui les avaient précédées. Je pense notamment à celui qui est
l'arbitraire
devenu...
L'arbitraire, c'est toujours important dans un régime autoritaire. L'arbitraire, dans un sens et dans l'autre.
Exactement. Hein, il n'y a pas de justice, il n'y a que effectivement des gestes. Et le détenu le plus... symbolique, iconique, Lardar Bourrega, ancien résistant anti-français, octogénaire, qui refusait d'être libéré tant que tous les manifestants ne l'étaient pas. Eh bien, en fait, ça a été un tour de passe-passe lorsqu'il était transféré à l'hôpital parce que sa santé se dégradait, qu'il a appris qu'il était libéré sans l'avoir demandé. Donc, même ces libérations-là, elles sont en fait imposées à ces détenus d'opinion.
Ils n'ont pas le choix d'être libérés. C'est voilà. Quand même assez cocasse. Sachant qu'il y aura un procès pour enfin, peut-être, c'est prévu pour le mois prochain.
En tout cas, il est certain que s'ils font le moindre geste qui déplairait au régime, on leur appliquera la peine avec sursis, qui n'est donc que suspendue.
Massane Sencherbi,
quant aux détenus donc, d'opinion, il y en avait déjà avant le 22 février 2019, mais leur nombre a été démultiplié à partir de juin, c'est-à-dire à partir d'un moment où, après les grandes mobilisations de mars-avril, le mois de Ramadan étant arrivé, la mobilisation était un peu moindre dans la rue algérienne, et le chef d'état-major en a profité pour commencer des arrestations, notamment suite à un discours dans lequel il s'était opposé à l'usage du drapeau amazir dans les manifestations algériennes. Suite à quoi, et c'est là où on a vu vraiment quel était le pouvoir de facto dans ce pays, suite à quoi la justice s'est mise en branle pour mettre en détention et juger les porteurs de drapeaux amazir sur le fondement d'une disposition du code pénal relative à l'atteinte à l'intégrité territoriale. Ce qui est une disposition qui est... ce qui est totalement fallacieux, puisque les porteurs du drapeau amazigh le portaient à côté du drapeau algérien comme un drapeau identitaire à côté du drapeau national représentant une identité transnationale. Par ailleurs, à partir du mois de juin, on a utilisé une autre disposition qui est celle de l'atteinte au moral de l'armée pour arrêter un certain nombre de manifestants. Et c'est à partir de ce moment-là que le nombre donc de détenus d'opinion a été démultipliée et on a parlé à cette occasion d'otages en fait, puisque justement les gens pensaient bien qu'il y aurait cette idée de la grâce présidentielle, mais les gens ne sont pas dupes et savent très bien qu'il s'agit d'un jeu du régime pour acheter entre guillemets le Hirak.
Alors, le Hirak justement et ses débuts, Jean-Pierre Filliou, dans votre dernier ouvrage, Algérie, la nouvelle indépendance, vous revenez justement sur les débuts et je veux dire, du point de vue vraiment du lieu, parce que tout commence en Kabylie, du côté de Kelata. Alors, il faut nous dire quelques mots, Jean-Pierre Filliou, pourquoi là-bas et comment l'histoire résonne justement de ce côté-ci?
Oui, donc Kelata, le 16 février 2019, Khenchela, le 19, le 22 février dans toute l'Algérie. Et en fait, d'emblée, on parle, c'est pourquoi j'ai choisi ce titre pour mon essai, de nouvelle indépendance. Hein. 1962, indépendance de la terre. 2019, indépendance du peuple. Et c'est tout à fait fascinant de voir une société se mettre en mouvement, se réapproprier les symboles nationaux, le drapeau évidemment, mais plus encore les figures des martyrs. Des héros qui sont tombés dans la guerre d'indépendance et notamment Aban Ramdan, qui a été l'architecte en 1956 de la première plateforme politique du Front de Libération Nationale, qui prônait à la fois la primauté du civil sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Le même Aban va être assassiné l'année suivante par ce qu'on appelle l'armée des frontières, donc dirigée par le colonel Boumediene, dans un guet-apens. On va présenter sa mort comme le résultat d'une action française, alors que c'est une exécution à l'intérieur du FLN. Et donc on a toute cette réhabilitation de grandes figures de la libération dans la perspective d'une réappropriation de la nouvelle indépendance, parce que l'Algérie présente le caractère tout à fait unique. C'est dans le monde arabe la lutte de libération de loin la plus longue et la plus sanglante, mais c'est là où le détournement de l'indépendance est le plus court et le plus brutal. C'est l'été 1962, l'armée des frontières fait mouvement à partir du Maroc et de la Tunisie et écrase la résistance intérieure. Et à partir de ce moment-là, les Algériens, avec beaucoup d'humour noir, disent « l'Algérie, c'est une armée qu'un pays ». Et même le FLN n'est plus que le bras politique de cette institution militaire qui va régenter le pays jusqu'à ce jour.
Massatène Chirbi, si vous le permettez, parce qu'on parle là d'indépendance et c'est vraiment très intéressant. Regardons comment justement les autorités françaises ont réagi au début du Hirak. J'ai pris un extrait, alors il y en a eu plusieurs des réactions, mais on a senti quand même globalement, en particulier au début du mouvement, une certaine prudence de la part des autorités françaises. Je vous prends un extrait, par exemple, d'un discours qu'avait fait le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il avait dit, je cite, « L'Algérie est un pays souverain, donc la France n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Algérie. Elle n'a pas à le faire et ne cherche pas à le faire. C'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient décider souverainement de son avenir. » Quel regard vous portez sur, peut-être l'extrait que je viens de vous proposer, mais plus globalement sur l'attitude des autorités françaises dans ce mouvement populaire? Est-ce que vous semble que la France a eu la bonne attitude et que, enfin, l'Algérie est indépendante, finalement?
Bon, l'attitude de la France, en fait, elle est très problématique, parce que si la France critique le régime va s'en servir pour parler de main de l'étranger. Et si la France, évidemment, soutient le régime, alors là, dans la rue algérienne, on va crier à la manipulation du régime algérien par la France.
Alors que faire?
Alors que faire? Du côté des autorités françaises, mieux vaut rester dans la neutralité, et ce serait plutôt à l'Union européenne et des institutions.
Rester dans la neutralité, ça veut dire quoi? Rien dire? Parce que ne rien dire, c'est soutenir tacitement le pouvoir en place.
Dénoncer sans doute ce qui est inacceptable, mais ne pas intervenir dans la politique algérienne, ce qui serait mal vu de la rue algérienne. En fait, depuis le début du Hirak, depuis le 22 février, depuis les premières manifestations, sans cesse, vous avez des panneaux, vous avez des caricatures dans les manifs à Alger et ailleurs en Algérie, qui présentent la France comme tirant toutes les ficelles du régime algérien. Le régime algérien est présenté comme étant manipulé par la France. C'est pour ça qu'il me semble que si certaines autorités internationales devaient intervenir et critiquer la situation algérienne, ce serait plutôt au niveau de l'Union européenne ou des Nations unies, mais la France, ce serait mal vu des deux côtés, si vous voulez.
Jean-Pierre Filliot, comment sortir de ça ?
Ah, moi, je comprends tout à fait l'extrême prudence des autorités françaises face à un régime et des médias totalement sous contrôle, hein, même quand ils sont théoriquement privés, qui se déchaîneraient contre la moindre esquisse de prise de position un peu plus active. Je suis beaucoup plus perplexe face au débat français qui est quand même relativement limité sur un mouvement extraordinaire dans un pays qui nous est tellement proche. Et un mouvement qui devrait, sortant un peu de notre francocentrisme, eurocentrisme, mais aussi nous interroger sur comment on fait de la politique en 2020. Les Algériens sont en train d'inventer des formes d'organisation, de mobilisation, de protestation, par définition imparfaite, par définition inaboutie, mais qui, je crois, mériterait, surtout dans un pays aussi proche de l'Algérie que la France, beaucoup plus d'intérêt, je n'ose dire empathie, voire solidarité, mais je le pense très fort.
On était avec vous Jean-Pierre Filliot et vous Massène Sen-Cherbi dans cette émission consacrée à l'Algérie, dans une semaine entière hein, consacrée à l'Algérie, jusqu'à jeudi, 11h36, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
J'avais un peu peur en fait, un peu très perplexe par rapport à cet appel qui appelait déjà à manifester, qui était derrière tout ça. Et j'avais aussi peur des débordements qu'il aurait pu y avoir et surtout de la répression de la police, en fait des autorités. Ce qui m'a le plus émue, c'est une dame qui a lancé la manif en faisant un youyou. Et ça m'a tout de suite rappelé ce que j'ai vu en image du 5 juillet 62. Libération de l'Algérie, et j'en ai pleuré en fait. J'ai mis un moment pour me reprendre et continuer à marcher. S'il y a un débordement, on le sait, du jour au lendemain, les autorités peuvent décréter un couvre-feu, enfin n'importe quoi, pour arrêter le mouvement. Et nous, il ne faut absolument pas que ce mouvement s'arrête. Parce que si ce mouvement s'arrête, pour moi, c'est la fin. Donc, il faut qu'on ait un comportement exemplaire.
Voilà, extrait de ce documentaire « Algérie, les promesses de l'aube » de Julie Perrard et Sonia Amran, qui avait été diffusé sur Arte après un an de marche tous les vendredis et les mardis aussi dans toutes les villes du pays. Ce mouvement qui luttait initialement contre un cinquième mandat de Bouteflika ne semble pas s'essouffler. En effet, la tenue des élections du 12 décembre dernier et puis ensuite la mort du général Gaïd Salah ont ravivé la détermination des contestataires. On va aller du côté d'Alger pour justement mesurer cette détermination. Bonjour Amel Boubekeur.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct par téléphone. Amel Boubekeur, vous êtes sociologue, chercheuse à l'EHESS. Vous avez passé beaucoup de temps à observer, à analyser ce mouvement populaire. On a vu dans ce mouvement, Amel Boubekeur, des profils extrêmement variés. Des hommes, des femmes, des jeunes, des seniors, des classes populaires, peut-être aussi des classes moyennes. Est-ce que c'est cette diversité sociologique qui a fait que ce mouvement dure encore aujourd'hui, Amel Boubekeur ?
Oui, bien entendu, une diversité sociologique manifeste, mais en même temps une espèce d'unification d'un phénomène important, c'est la politisation des expériences personnelles d'injustice, c'est la politisation du sentiment de dédain de l'État, et quelles que soient les appartenances socioculturelles, depuis un an que je rencontre les Algériens dans ces marches, j'ai rencontré pêle-mêle des cadres, par exemple, d'entreprises étatiques qui avaient été injustement licenciés parce qu'ils avaient dénoncé des affaires de corruption. J'ai rencontré des mères de disparus des années 90, d'autres mamans de Haraga, donc d'immigrés illégaux ou de migrants illégaux dont certains ont disparu en mer. Et donc c'est toute cette, et je pourrais citer d'autres exemples, et donc toute cette tout ce sentiment en fait de politisation d'une expérience personnelle d'injustice est véritablement ce qui est le cœur du Hirak. Et en brisant le tabou de l'action collective de cette agglomération comme ça de d'individualité, eh bien il y a quelque chose de fort, une porte qui a été franchie, qui est finalement le sentiment de la protection de l'Algérien par l'Algérien. Et c'est là aussi que prend c'est là qu'est le sens profond du slogan de la Silmia, de ce pacifisme, c'est-à-dire finalement, ensemble, nous pouvons créer un mode d'action collectif qui ne soit pas homogénéisant, mais qui soit aussi, qui ait aussi une espèce de cohérence entre toutes nos individualités, nos expériences justement de dédain de cet État qui continue à faire comme si nous n'existions pas.
Amel Boubekar, il y a une autre chose qui était assez frappant, qui est assez frappant dans ce mouvement, c'est cette capacité à rester totalement pacifique. C'est-à-dire que même les moments où on a senti que la tension montait, que ça aurait pu déraper, où il y a eu peut-être des casseurs qui ont un peu pointé le bout de leur nez, au fond, le mouvement est parvenu à maîtriser tout cela. Alors, on sait évidemment parfaitement, Amel Boubekar, qu'il y a cette mémoire de la décennie noire qui a dû jouer à plein, mais quand on regarde quand même un peu les choses, on a aussi énormément de jeunes qui étaient même pas nés durant cette décennie-là. Donc, on imagine peut-être qu'il y a autre chose, Amel Boubekar. Comment est-ce que vous avez compris, vous, cette incroyable capacité de contrôle, d'autorégulation du mouvement?
Oui, alors, bien entendu, il n'est pas nécessaire d'avoir vécu la décennie noire pour en avoir hérité le souvenir, les récits, etc. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui était paradoxalement, extrêmement tabou au sein de la société algérienne, mais toujours présent. Et l'enjeu, en réalité, au sein de ce Hirak, c'est l'imposition de nouvelles formes de conflictualité. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on peut imposer des règles du conflit nouvelles qui ne soient pas celles du régime, et ces règles de conflit, donc qui soient d'une part pacifiques, comme vous l'avez mentionné, mais qui soient aussi, au-delà du pacifisme, qui ne soient pas perturbatrices d'un certain consensus, pas simplement sur la non-violence, mais aussi sur la capacité à respecter des lignes rouges, ou par exemple, je vais vous donner des exemples très concrets, donc qui sont aussi hérités de ce consensus qui a été construit pendant 20 ans après la guerre civile. Donc par exemple, les actions qui ont appelé à des grèves générales n'ont pas connu un succès fulgurant, parce que toutes ces, ou bien par exemple d'autres actions qui avaient appelé à perturber physiquement l'organisation du scrutin présidentiel aussi n'ont pas connu un succès important, tout simplement parce que cette notion de perturbation de l'équilibre fragile quotidien du vivre ensemble des Algériens, elle est très importante au sein du Hirak. Et donc les marches, c'est une façon d'être présent, de s'installer dans la durée, tout en ne perturbant pas finalement l'équilibre précaire de ceux, et ils sont quand même nombreux, qui choisissent de ne pas participer aux marches. Alors, soit par peur de la répression, c'est souvent le cas, c'est en grande majorité le cas, certains peuvent soutenir, d'ailleurs il y en a beaucoup, le Hirak sans se joindre physiquement aux marches, mais c'est véritablement ça l'histoire, c'est inventer de nouvelles règles conflictuelles. Je disais qu'il y avait en fil conducteur de cette réinvention l'idée d'imposer des règles formelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, depuis 88 et de 92, avec l'ouverture du système pluraliste politique en Algérie, il y a l'idée que finalement, on règle nos problèmes à travers un processus électoral, alors qui n'intègre pas en réalité les citoyens véritablement, puisque ce sont des élections truquées, puisque je parle y compris d'élections locales ou législatives. Et donc l'idée du Hirak, c'est de dire bon, si des règles informelles en réalité du lieu du pouvoir informel qui est dans les mains de l'armée principalement et des services de sécurité qui manipulent cette autorité présidentielle, nous voulons aujourd'hui discuter véritablement avec les tenants véritable du pouvoir, donc avec l'armée, et ça c'est le sens du slogan Daoula Madaniya Mashia Askaria, c'est-à-dire nous souhaitons un État civil et non plus un État militaire, et non pas un État militaire. Et cette idée d'imposer des règles formelles du conflit, eh bien c'est ce sur quoi le régime tente de résister, c'est-à-dire parce qu'elle permettrait l'émergence de nouveaux acteurs, elle permettrait l'émergence de nouvelles arènes de négociation, et maintenir, comme l'a fait le régime et notamment l'armée, l'organisation d'un scrutin présidentiel, la figure d'un président ça a été assez dit, qui n'a aucune légitimité non seulement populaire mais aussi fonctionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la prise de décision au niveau de la présidence est pas simplement non fonctionnelle, mais elle est nulle et non avenue. Rien n'est fait, rien n'est décidé. Donc voilà un petit peu ce qui est au cœur du Hirak, c'est vraiment cette imposition de règles formelles du conflit.
On comprend parfaitement. Amel Boubacar, encore peut-être une question, et puis ensuite je vais faire réagir nos invités ici en plateau. Alors, c'est souvent le cas dans les mouvements populaires de cette nature, mais même si celui-ci est évidemment... Enfin, les comparaisons sont toujours compliquées, mais en tout cas, souvent, ce sont des mouvements qui rejettent l'idée de mettre en avant des figures particulières. D'abord parce que on veut bien montrer que c'est un collectif, en l'occurrence un peuple, qui tout entier s'élève contre un régime. Probablement aussi parce que il y a le risque de mettre des personnalités en danger face à un régime particulièrement autoritaire. Et d'ailleurs, le danger est aussi celui de la récupération par le régime ou par l'opposition. Mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de figures qui ont émergé. Tout à l'heure, Jean-Pierre Filiou parlait de Lakhdar Bourega, ce vétéran de la guerre d'indépendance. Il y a Karim Tabou, il y a Mohamed Tajadit, il y en a d'autres. Est-ce que vous pensez que l'émergence de ces figures particulières, c'est un prélude à une formalisation plus avancée de ce mouvement-là? Est-ce que vous pensez que ce mouvement pourrait se transformer progressivement en force politique formelle, Amel Boubacar?
C'est déjà une force politique formelle. Hein. Prendre la rue les mardis, les vendredis, alors que ça est interdit, alors qu'il y a une répression par la police, etc., c'est une formalisation de l'opinion politique algérienne extraordinaire et extrêmement courageuse au vu de la répression. Alors,
vous avez tout à fait raison, mais pas en capacité de jouer sur le jeu politique tel qu'il est institutionnalisé. Je vous en prie.
Oui, l'enjeu de pouvoir formaliser des négociations. Alors, on m'a posé la question peut-être plus de 50 fois, sans exagérer, depuis le début du Hirak, sur la question du leadership. Ouais. J'imagine que c'est aussi cette question-là qui est sous-jacente à votre question. En fait, il faut comprendre que le refus de la délégation du pouvoir est aussi une critique très mûre, en fait, du système représentatif. Et en cela, les Algériens sont du monde, ils sont de 2020. C'est une crise du système politique représentatif qui n'est pas particulièrement restreinte à l'Algérie. Et inventer des formes locales de démocratie délibérative dans cette tentative de réinventer les politiques, ça a existé dès le 22 février. Dès le 22 février, des petits conseils dans les quartiers se sont organisés, dans les villages, etc. Et là, je voudrais qu'on soit très attentif à ce que je vais dire. C'est le régime algérien, à travers son bras armé et ses services de sécurité, qui a empêché l'organisation de ce mouvement, c'est-à-dire quand hier encore une réunion de collectifs qui représentent justement des étudiants, des ligues des droits de l'homme, des personnalités historiques, indépendantes, etc., qui font partie du Hirak en ce sens qu'elles participent aux marches, elles participent au débat, elles prennent position, etc. Cette réunion-là hier a été interdite. Et il faut encore souligner qu'il y a aujourd'hui encore des kidnappings des activistes du Hirak, en particulier dans les régions de l'intérieur où là, la solidarité est plus difficile à maintenir, en tout cas la visibilité de cette solidarité est plus compliquée à mettre en branle qu'à Alger. Ces gens-là sont kidnappés, il y a encore des arrestations, donc ça n'est pas facile représentant du Hirak. Mais en même temps, pardon, et ce sera peut-être mon dernier point à votre question, il faut différencier entre des offres de services, et c'est en cela que les hirakistes ou les personnes qui participent au Hirak ont été très critiques vis-à-vis du pouvoir algérien, c'est-à-dire en tant que parti lambda, je décide moi demain d'aller voir le président, de lui expliquer que je représente le Hirak et d'exposer ma feuille de route, et puis des offres de propositions au Hirak directement. Et là, il y a eu des feuilles de route aussi nombreuses depuis le 22 février, en disant voilà ce à quoi pourrait ressembler une transition démocratique. Il y a eu des discussions, il y a eu des gains concrets sur. Et aujourd'hui, on a un petit peu une vision assez claire de ce à quoi pourrait ressembler la transition.
Sauf qu'évidemment, le pouvoir en place, pour l'instant, rejette assez largement ce projet. Jean-Pierre Filiou, nous, c'est vrai que quand on pense à tout cela, cette question de la formalisation, on a peut-être en arrière-plan, peut-être y pensais-je moi-même, l'exemple de Podemos, par exemple, en Espagne, qui est un peu né pareil, puis qui finit par se formaliser jusqu'à participer à un gouvernement. Là, dans le cas algérien, on est très loin du compte, pour la raison qu'évoquait à l'instant Amel Boubacar, c'est-à-dire que le pouvoir fait tout pour éviter cette formalisation.
Alors, ça a été parfaitement décrit et expliqué, mais il faut voir que du côté du Chirac, on fait d'ores et déjà de la politique autrement parce qu'on fait peuple. Hein, le peuple n'est pas une abstraction, le peuple c'est une réalité qui doit être vécue par des femmes et des hommes qui se reconnaissent dans une collectivité nationale. Et on a ce peuple algérien qui était au fronton de tous les édifices publics, qui était invoqué dans tous les discours, qui reprend une réalité, qui reprend une existence, une substance, une profondeur, une épaisseur. Et ça, c'est fondamental. Et comme ça a été rappelé, ça veut dire aussi une forme d'acceptation de la différence, y compris de la différence de ceux qui ne marchent pas et de ceux qui vont voter. C'est extraordinaire dans l'histoire algérienne, quand on sait que pendant des décennies, on s'est construit toujours contre l'autre, théoriquement l'autre français, l'autre oppresseur, l'autre colonial, mais c'était l'autre algérien. Et on le disqualifiait, on lui disait « moi je suis le bon algérien, toi tu es le mauvais algérien », et le Chirac est en train, sous nos yeux, de s'efforcer de dépasser ces querelles qui par définition étaient fratricides.
Oui, pour abonder dans le sens d'Amel, on a effectivement vu le Chirac refuser d'être accaparé par tel ou tel représentant. Et justement, dès la fin du mois de mars, on a eu une grande revendication qu'on retrouve encore aujourd'hui, chaque vendredi en Algérie, la revendication de la souveraineté du peuple. L'article 7, alinéa 2, la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Son excellence, le peuple, comme on dit dans les manifestations, par opposition à son excellence, le président de la République. Un refus du zaïmisme, du présidentialisme. Or, justement, cette revendication d'indépendance qu'on a retrouvée dans les manifestations, l'Istiqlal qui était scandé et qui est encore scandé, eh bien, elle remonte au mouvement national algérien à l'époque était revendiquée en 1933 par l'étoile nord-africaine en même temps que l'indépendance, la réunion d'une assemblée constituante algérienne qui permettrait de rédiger une constitution propre à l'Algérie et de la rendre du coup de ce fait indépendant. Et aujourd'hui, cette revendication signifie indépendance par rapport au régime, indépendance du peuple par rapport au régime. Dans les manifestations, on a bien vu les gens revendiquer l'indépendance en signifiant bien qu'en 62 il y avait l'indépendance du pays, mais qu'en 2019 c'était l'indépendance du peuple. Et cette indépendance du peuple, c'est pour que sa souveraineté se réalise, cela nécessite une assemblée constituante qui permettrait non pas de toiletter la constitution, mais d'avoir un changement radical de système, c'est-à-dire un changement radical de constitution écrite par et pour le peuple.
شحال من سؤال ما لقيت له جواب شحال من قريب تبدل وغاب بالعنوان راك فهمت لك تطفيت الشمعة وغلقت الباب غرقت السفينة اللي كنت فيها الرئيس وشفت الموت تعنق فيا لعبت بيا كي العرايس وجميع موجات رمي فيا واحد مغلوب مزمان وفرحان معاه طيحة ونوضة وتلت مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة واحد مغلوب مزمان وفرحان معاه طيحة ونوضة وتلت مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة.
Un grand merci à Amel Boubekeur qui est avec nous à l'instant en direct par téléphone depuis Alger. Et puis un grand merci à nos deux invités ici, Jean-Pierre Fidou, je rappellerai vous concernant Algérie, la nouvelle indépendance qui est parue au Seuil. Massen Sencervi, un grand merci également. Vous aviez signé Algérie aux éditions de Book Supérieur. On mettra évidemment les références sur la page de Culture Monde. C'est avec cette magnifique voix algérienne, évidemment, Swann Massi, que l'on se quitte, qui est une chanson en hommage, un salut du cœur au peuple résistant, que l'on tourne cette page algérienne, qu'on rouvrira demain. Pour l'heure, c'est Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Combien de fois avons-nous entendu dans des discussions ou lu sur les réseaux sociaux cette phrase « Mais Hitler est bien arrivé au pouvoir par les élections, les nazis ont eu la majorité ». Info ou intox ?
Oui, c'est l'argument classique des gens qui dénient au peuple la capacité de choisir leurs dirigeants de manière éclairée. Il est aussi régulièrement invoqué par certains perdants lors des consultations électorales pour dénier aux partis vainqueurs la légitimité de gouverner à leur place. Mais il n'a qu'un défaut, c'est d'être inexact. Comme le rappelle utilement Nicolas Patin, universitaire, dans le dernier numéro de la revue Phébé. socialiste. Les scores électoraux du Parti national-socialiste, marginaux dans les années 20, ont certes décollé à partir de 1930 en raison de la crise économique, culminant à 37% aux élections de juillet 32. Mais lorsque Hitler fut désigné chancelier par le vieux président Hindenburg en janvier 33, son parti venait de perdre une bonne partie de ses électeurs. Aux élections de novembre 32, en effet, il était retombé à 33%. Ce ne sont donc pas les électeurs qui ont porté Hitler au pouvoir, mais bien une conspiration de politiciens réactionnaires qui s'imaginaient utiliser cet agitateur démagogue qu'il méprisait afin de mater les forces de gauche. C'est ce qui ressort du livre de Benjamin Carter Head, The Death of Democracy, Hitler's Rise to Power and the Downfall of the Weimar Republic. La résistible ascension d'Hitler au pouvoir a été décrite bien des fois, mais dans sa recension de ce livre pour le New York Times, Timothy Snyder estime qu'il apporte des lumières nouvelles et qu'il lui donne une grande actualité. Ses prédécesseurs, en effet, avaient bien montré le rôle joué par la milice en uniforme du parti nazi, les SA, attaquant les meetings de leurs contradicteurs, vandalisant leur permanence. Ces bandes de voyous faisaient régner la terreur dans les rues. Les affrontements qu'ils provoquaient ayant fait de nombreux blessés et même des morts, les nazis se présentèrent alors comme victimes de la violence qu'ils avaient eux-mêmes déchaînée. Vieille recette de l'extrême droite, attiser le désordre dans la rue, puis se présenter comme seul apte à rétablir l'ordre. Comme l'écrit Timothy Snyder, les nazis parvinrent-ils au pouvoir par des élections démocratiques ? En Allemagne, dans les années 30 comme ailleurs, les élections continuèrent, mais c'est leur sens qui changea. Le fait que les nazis usaient de la violence pour intimider les autres signifiait que les élections n'étaient plus libres au sens normal.
Et Brice, le Parti national-socialiste prétendait révolutionnaire. Aux yeux de ce dirigeant, la victoire ne pouvait donc procéder du seul processus électoral.
En effet, elle devait procéder, cette victoire, d'une prise du pouvoir par la force. Dans le même esprit, leur inspirateur, Benito Mussolini, avait lancé sa marche sur Rome pour exiger que le pouvoir lui soit confié légalement. Et la répression qui s'abattit sur les dirigeants des partis d'opposition, aussitôt Hitler maître de la chancellerie, était censée illustrer cet aspect révolutionnaire. Mais l'aspect le plus original du travail de Benjamin Carter Head concerne le rôle joué par la mondialisation. Alors vous me direz, certes, le mot n'existait pas dans le vocabulaire allemand des années 30, mais le jazz avait gagné les cabarets berlinois et les avant-gardes à travers toute l'Europe communiquaient leur mot d'ordre transgressif et c'en était assez pour sembler menacer les fondements de la culture traditionnelle allemande. Et l'intensité des échanges commerciaux entre les puissances industrielles était une réalité à l'époque. Une bonne partie des classes moyennes protestantes, ruinées par la deuxième vague d'inflation que subissait l'Allemagne d'après-guerre, en rendaient responsables les banques, les anglo-saxons, les juifs. Ce que les nazis appelaient le système, c'est-à-dire la République de Weimar et ses institutions, était dénoncé comme le relais de ces forces étrangères. Sur le modèle du mythe du coup de poignard dans le dos par lequel les nationalistes refusaient de concéder que l'armée allemande avait bel et bien été vaincue sur les champs de bataille. Le programme politique des nazis prévoyait d'ailleurs la reprise en main de l'économie allemande par un gouvernement visant à l'autarcie économique, la conduite d'une économie planifiée sous le contrôle du pouvoir politique, la fin de la mondialisation donc, et son remplacement par la conquête coloniale de l'Europe centrale. Plutôt que d'examiner comment la gauche aurait pu empêcher l'ascension de Hitler, écrit Timothy Snyder, Head conclut son livre en étudiant la manière dont les conservateurs, qui avaient aidé Hitler à accéder au pouvoir, changèrent d'opinion et complotèrent contre lui. Les conclusions qui en émergent pour les conservateurs d'aujourd'hui sont claires, poursuit Snyder. Ne détruisez pas les règles qui préservent la République, parce qu'un jour vous aurez besoin d'ordre, et ne détruisez pas les opposants qui respectent ces règles, parce qu'un jour ils vont vous manquer.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain Brice, et dans un très court instant, c'est Raphaël Bourgois et la Grande Table.